If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Chers auditeurs,
dear listeners,
bonjour.
Welcome in Comme d'Archie podcast season 3.
Saison 3 dans le monde fascinant des architectes.
And in the architectural projects.
Je suis Anne-Charlotte Deponte, passionnée d'architecture et docteur des universités en histoire de l'archi.
I am one of the spokespersons of Anne-Charlotte, who is a PhD in architecture history.
Merci.
Thank you.
D'être avec moi aujourd'hui.
To be with us today.
Et
and
maintenant.
Now.
Lundi en français, place au talent.
And Wednesday, let's talk projects. In English, of course.
Bienvenue dans Comme d'Archie.
Chers auditeurs, ravis de vous retrouver aujourd'hui en compagnie de Françoise NTP. Bonjour Françoise.
Bonjour Charlotte.
Bienvenue dans Comme d'Archie. Vous êtes architecte et à la tête de votre propre agence, laquelle porte votre nom. Vous vous attachez, je cite, à y créer des synergies et des transversalités, placer l'échange et les usages au cœur du projet, construire et élaborer sans a priori, apprendre des autres, laisser place à l'expérimentation matérielle et mentale, être résolument contemporain. Auparavant, vous êtes passé par des agences emblématiques, Nicolas Michelin et Van Gepel, et puis François Seigneur. En 2000, vous vous associez à Aldric Beckmann. Et en 2018, vous fondez votre propre structure. Alors, ça fait quand même beaucoup de temps avec Aldric Beckmann. Ça ne devait pas être évident, mais vous allez nous raconter tout ça de refonder finalement votre propre agence. Et j'imagine que c'était par désir d'exprimer vos propres convictions en liberté. Mais vous allez nous préciser tout ça. On va commencer par le début. Quel est votre parcours, votre jeunesse, où s'est ancrée votre envie d'architecture, quelles ont été vos études?
Alors, bon, moi, j'ai pas du tout une famille d'architectes. C'est un peu venu, on va dire, par hasard, l'envie d'architecture. J'étais toujours assez intéressée par les arts, d'une manière générale, le graphisme, l'architecture intérieure. Justement, pendant un bon moment, je pensais plutôt faire du graphisme, en fait. Et c'est venu un peu la question. En fait, j'ai un frère jumeau qui, lui, très vite a voulu être architecte. Et je me suis posé la question de si je voulais faire ça. Et je me suis dit, ben non, l'architecture, c'est plutôt pour les garçons, le préjugé. Et je vais d'abord plutôt faire de l'architecture d'intérieur, en fait. Donc, je me suis inscrite après le bac au concours des grandes écoles d'art. Et au final, en fait... j'ai fait une prépa et j'ai voulu m'inscrire à l'école Camondo, qui est assez connue à Paris, dans le 14e. Et en fait, il m'est arrivé une petite histoire qui fait rire pas mal de personnes, c'est que je me suis trompée d'adresse. C'est-à-dire qu'à l'époque, on n'avait pas Internet, tout ça, j'avais regardé dans le bottin, enfin dans l'annuaire, et j'ai cherché l'adresse de Camondo. On m'avait dit que c'était boulevard Raspail, donc en face de la Fondation Cartier. Et en fait, je me suis inscrite sans le savoir à l'école spéciale d'architecture. Et donc, quand je suis arrivée le jour du concours, je me suis dit, c'est bizarre, je ne retrouve pas mes amis qui étaient en prépa avec moi, qui devaient être aussi au concours pour Camondo. Et puis, je me suis dit, bon, c'est pas grave, on verra. J'ai passé le concours haut la main. Et le premier jour où j'ai vu l'emploi du temps, je me suis dit, alors là, c'est pas du tout ce que j'avais prévu. Et puis, en fin de compte, je me suis dit, finalement, je verrai si ça me plaît. Et puis, de toute façon, j'aurai toujours la possibilité de me spécialiser plus tard, alors que l'inverse, c'est pas possible. Et en fait, ça m'a plu tout de suite et je suis restée architecte. Voilà, c'est comme ça que ça a démarré, mais c'était vraiment sur un malentendu, les histoires de vie.
Et peut-être que l'inconscient a joué.
Sans doute, oui, ouais. Ça m'a un peu bousculée peut-être, mais c'est bien.
Et donc, vous faites toutes vos études à l'école spéciale?
Oui, j'ai fait mes 5 ans d'études à l'école spéciale, oui. Ouais. C'était vraiment une école très, très, très bien, enfin, en tout cas à l'époque... J'ai pu rencontrer beaucoup d'architectes de renom, notamment Finn Geipel, après chez qui j'ai travaillé. Et c'était vraiment des années très, très intéressantes.
Bon. Alors, quand et comment vous avez commencé votre activité d'architecte? J'ai parlé en premier de Nicolas Michelin. C'est la première agence dans laquelle vous êtes entrée?
En fait, oui. Finalement, en fait, après mon diplôme, au départ, je ne savais pas trop quoi faire. Je voulais sans doute aller à l'étranger, en fait. J'avais des envies d'aller aux États-Unis. Et en fait, c'est Finn Geipel, qui était mon directeur de mémoire pour mon diplôme, qui m'a débauché au sortir du diplôme, qui m'a dit « je t'embauche tout de suite ». J'avais fait des stages déjà dans leur agence à l'époque. Ça s'appelait l'APFAC. Ouais. Et donc, j'ai débarqué chez Finn et Nicolas juste après le diplôme. Et j'ai resté à peu près un an et demi avec eux. Et puis après, c'est plutôt Nicolas qui m'a mis un peu le pied à l'étrier en me disant « ce serait bien que tu te mettes à ton compte, tu commences à faire des choses pour toi ». Donc, je me suis mise en libérale. Et à un moment donné, ils n'avaient plus trop de travail à me donner. Donc, j'ai cherché ailleurs. Et c'est là où j'ai rencontré en fait Aldric via une amie, une connaissance commune qui nous a mis en contact.
D'accord. Et Aldric sortait d'une autre école, j'imagine.
Oui, Aldric, lui, il sortait de Paris-la-Seine. On ne se connaissait pas du tout, donc, avant. Il a eu son diplôme un petit peu, deux ou trois ans avant moi. Et en fait, lui, quand je l'ai rencontré, il travaillait déjà avec François Seigneur, qui était aussi un de ses amis, avec qui il a fait ses armes, en fait, on va dire, pas mal pendant ses études. Et en fait, François avait développé une antenne parisienne et cherchait des partenaires et des collaborateurs pour développer ses projets plutôt sur Paris et les Hauts-de-France. Et en fait, voilà, j'ai rencontré Aldric comme ça, qui avait passé une annonce et qui cherchait quelqu'un pour renforcer l'équipe de l'époque. Quand je suis arrivée, en fait, finalement, on était trois parce qu'il y avait aussi un autre architecte qui travaillait déjà avec Aldric, c'est Franck Vialet, qui a maintenant son agence aussi. Voilà, donc on s'est retrouvés tous les trois et on a fait pas mal de projets pour François. Et puis, au bout d'un moment, pareil, François n'avait plus trop de projets à nous donner. Donc, on a finalement commencé à travailler ensemble, à faire des petits concours ensemble. Et on a fini par en gagner. Donc, c'est comme ça qu'on va dire, on a commencé notre aventure. Mais on n'avait pas du tout prémédité quoi que ce soit. On s'était pas dit qu'on allait s'associer.
Oui, alors justement, l'une de mes questions récurrentes dans Comme d'Archi est « Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez le sentiment d'avoir accompli ce que vous imaginiez à la sortie de l'école ?»
J'imaginais rien à la sortie de l'école, donc oui. On va dire que je suis très contente d'avoir accompli ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui. Je pense que je suis loin encore d'avoir fini. En tout cas, je le sens, moi, que j'ai encore beaucoup de choses. J'ai encore envie de faire beaucoup de choses encore. Mais oui, je suis plutôt contente pour l'instant de mon parcours. Oui. On va le dire.
Vous avez le souvenir de projets un peu emblématiques sur lesquels vous avez travaillé dans cette première expérience professionnelle, à la fois auprès de Nicolas Michelin et Finn Geipel, et ensuite auprès de François Seigneur?
Alors, chez Nicolas et Finn, j'avais plutôt travaillé sur des concours en Allemagne. Donc, c'était plutôt des gros sujets de restructuration sur des friches ou des choses comme ça. Parce que c'est vrai que, notamment, Finn avait une grosse approche sur tout ce qui est urbanisme. Nicolas aussi, d'ailleurs, c'est toujours le cas. Et donc, ça m'a permis un peu de travailler sur la grande échelle, ce qui était plutôt intéressant. Ce que je fais moins aujourd'hui, mais en tout cas, ça m'a donné une façon de travailler sur la ville et de voir la ville, en fait, d'une autre façon, comment gérer les quartiers, enfin, les synergies entre les différents composantes d'un quartier. Donc ça, c'était vraiment intéressant pour moi, cette période-là, pour ça. Après, avec François, c'était différent, c'était plus des concours d'équipement. Notamment, je me souviens d'un projet qui était vraiment super, c'était le musée du train à Mulhouse. Pour moi, c'était assez magique de travailler sur des équipements culturels. C'est des choses que j'adore. Donc, quand j'étais jeune, j'allais souvent dans les musées, etc. Donc, du coup, c'était assez excitant pour moi de travailler sur des projets de musée. Et donc, voilà, c'était aussi une autre façon de faire de l'architecture. C'était plus dans le détail, on va dire. Donc, c'était plutôt intéressant pour ça aussi.
Et après, avec Aldric Beckmann, vous avez signé quelques bâtiments emblématiques?
Oui. Oui, on en a signé plusieurs. Je pense que le plus symbolique aujourd'hui, qui reste vraiment un projet qui a été aussi beaucoup publié internationalement, c'est un projet de logements sociaux dans le 13e arrondissement, sur à l'époque une ZAC de Christian de Port-en-Part. C'est un projet de 48 logements sociaux avec des commerces en rez-de-chaussée et un local d'activité. Et c'était un projet qui est assez particulier parce que il est de sa facture en fait architecturale, de sa matière qui est du béton brut teinté dans la masse. Il est très particulier, très sculptural. Et c'est vrai que bah, la plupart des gens qui le voient, qui ne restent pas indifférents, en fait. On aime ou on n'aime pas, mais c'est un projet qui marque, en fait. J'ai compris ça avec le temps. On comprenait déjà, quand on l'a dessiné, que ce n'était pas un projet évident en soi. Christian nous a beaucoup encouragés et aidés, justement, pour aller au bout de notre démarche. Parce que, par exemple, une couleur sombre à Paris, c'est un peu parfois critiqué, des choses comme ça. Et lui, il a dit non, au contraire, allez-y, foncez. Et on a eu la chance aussi d'avoir un bailleur social qui nous a suivis, c'était la CEMIDEP à l'époque, qui nous a fait confiance et qui on a vraiment pu expérimenter un projet. C'est ce qui a vraiment nourri ma démarche aujourd'hui, je pense, c'est cette manière de pouvoir faire un projet en travaillant aussi avec les industriels. On a beaucoup travaillé sur justement la qualité du béton avant construction, après construction. C'était un béton spécial, autoplaçant, donc c'est vraiment des techniques particulières. On a beaucoup appris sur ce projet. Et après, j'ai eu la chance de pouvoir y retourner quand il a été construit, faire des visites avec des habitants sur place. Et c'est vraiment génial quand on entend des habitants qui vous disent « on est vraiment super heureux chez vous, enfin dans votre bâtiment ». Voilà, c'est des choses qui me tiennent à cœur quand je fais un projet.
Ça fait plaisir d'entendre ça, parce que souvent, l'architecte est un peu coupé de son bébé, entre guillemets, après livraison. Et on regrette souvent d'ailleurs que l'architecte ne puisse pas davantage s'intéresser à l'usage. Il y a comme une séparation.
Oui, ouais, c'est assez dur de pouvoir garder un peu... c'est un peu comme un bébé, quoi. On vit avec pendant des années, parce qu'un projet d'architecture, c'est entre 4, 5 ans, parfois plus. Et après, du jour au lendemain, quasiment, on vous dit « vous n'êtes plus là ». Voilà, donc c'est vrai que c'est un peu dur, et quand effectivement on a la chance de pouvoir y retourner, de pouvoir encore plus finalement discuter avec les gens qui l'utilisent, alors là c'est vraiment, c'est bien, enfin ça nous nourrit de toute façon aussi sur notre façon de faire le métier d'architecte après aussi.
Maintenant, est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de vos projets en nom propre?
Alors mes projets en nom propre, comment commencer? C'est vrai que j'ai quand même 20 ans d'expérience, enfin maintenant plus, mais à l'époque quand j'ai relancé ma nouvelle agence, j'avais 20 ans d'expérience.
Oui, et puis en plus une expérience avec des sacrées pointures.
Oui.
Il faut quand même le dire.
Et du coup, j'ai voulu effectivement faire ce pas de prendre du recul et de savoir ce que j'avais envie de raconter aujourd'hui. En tant qu'architecte, en tant que femme architecte, en tant que femme noire architecte, enfin, ça fait beaucoup de choses. Et du coup, j'essaye encore aujourd'hui de construire un discours pour expliquer la façon dont je travaille, qui est, donc, on l'a parlé d'usage déjà, ça c'est pour moi quelque chose de très important. En fait, la place de l'humain, des usagers est très importante quand on me donne un sujet. En fait, en général, j'aime beaucoup discuter avec mon client ou la maîtrise d'ouvrage que j'ai en face de moi, savoir vraiment ce qu'ils attendent. J'ai tendance à pas imposer les choses, mais plutôt être dans le dialogue. Et je trouve que ça marche plutôt bien en général. Ça permet de rassurer le client, de voir qu'on maîtrise aussi ce dont on parle. Et puis j'apprends aussi en même temps avec eux, parce qu'on est architecte, mais on ne sait pas forcément tous les tenants et aboutissants d'un programme qu'on nous donne, tous les usages. À chaque fois, c'est une nouvelle histoire. Et donc à chaque fois, il faut se réinventer. En tout cas, moi, j'essaye à chaque fois de me réinventer. Je veux dire que je fais ce qu'on appelle une architecture contextuelle ou une architecture située. Donc, c'est plutôt à chaque fois une réponse complètement différente à chaque proposition.
Oui, comme une recette de cuisine, il y a plein d'ingrédients.
Oui, c'est ça.
Il faut mettre ensemble.
Et après, ça ne donne pas toujours la même chose en fonction de ses qualités. Oui, c'est, pour moi, c'est important d'insister là-dessus. C'est de comprendre que, en tout cas, moi, je ne suis pas du tout dans le systématisme ou dans la standardisation. Au contraire, j'aime beaucoup aller là où on ne m'attend pas, en tout cas chercher des choses un peu inattendues, même parfois proposer des choses à mes clients auxquelles ils n'auraient pas pensé, en fait. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. C'est des démarches un peu intellectuelles, parfois, qui ne sont pas toujours simples à mettre en place. Mais quand ça marche, c'est vraiment super intéressant. Après, il y a le côté plus sensible de ma démarche, où je ne peux pas dire que j'ai une démarche intellectuelle poussée, mais je travaille beaucoup sur la matière, par exemple, sur la qualité intrinsèque des matériaux. Et c'est quelque chose qui, pour moi, est très important, parce que je trouve qu'au-delà de la forme, en fait, on donne à vivre quand même des espaces dans leur matérialité, dans leur lumière, dans leur volume. Et je trouve que la matière, pour ça, a un rôle indispensable dans l'architecture. Donc c'est autant l'extérieur, donc les façades, que aussi l'intérieur. C'est un peu un lieu commun, mais on travaille quand même pour les autres. On travaille pour des gens, mais pas pour soi. Donc il faut se mettre à leur place et se dire, est-ce que moi aussi j'aimerais habiter cet espace, ou en tout cas l'avoir conçu comme ça. Voilà, c'est toujours des questions que je me pose dès le départ.
Alors, ce que vous évoquez me fait penser à la sensualité, mais peut-être pas en allant jusque-là. Mais en tout cas, vous prenez une architecture qui fait appel au sens.
Oui. Oui, les sens, beaucoup. Bah, c'est peut-être aussi, c'est peut-être un peu la sensibilité que j'ai par rapport aussi à l'art contemporain ou la danse contemporaine ou des choses comme ça. Je m'imprègne beaucoup de ça et du coup, je pense que forcément, ça influe sur ma façon de faire mon architecture aussi.
Vous dansez ?
Non. J'aurais bien voulu, mais non, je danse dans ma salle de bain. Oui. Mais...
on ne peut pas tout faire.
Non, exactement. On ne peut pas être bon partout, comme on dit.
Quel type de maîtrise d'ouvrage, avec quel type de maîtrise d'ouvrage vous travaillez ?
Alors, je travaille avec tout type de maîtrise d'ouvrage. J'ai justement la chance qui n'est pas forcément pratique, ou en tout cas simple en France, mais de ne pas être spécialisée. Donc, je ne suis pas dans une case particulière, donc je travaille aussi bien pour des clients particuliers que pour des bailleurs sociaux, de la promotion immobilière, voilà, enfin tout type de maîtrise d'ouvrage public, ça dépend.
Vous pouvez nous parler de vos projets ?
Oui, bien sûr. Alors actuellement, depuis que j'ai commencé, j'ai fait divers projets, mais j'ai une antenne que je suis en train de développer en Afrique. Voilà, c'était aussi un de mes souhaits, c'était de renouer un peu avec mes racines. J'ai quand même vécu en France, mais maintenant, enfin, j'ai de la famille, je suis originaire du Cameroun, j'ai encore de la famille là-bas.
Et où au Cameroun ?
Bah, je suis originaire de Douala. Donc, j'ai voulu, là, dans ma nouvelle démarche, pouvoir apporter, en tout cas, mon expérience ou mon savoir-faire aussi sur des projets en Afrique subsaharienne. Donc, j'ai des projets actuellement au Bénin, je travaille sur un gros projet de musée au Bénin. C'est pour la petite histoire d'ailleurs, le musée qui accueillera les 26 œuvres qui ont été restituées par la France, les 26 œuvres du Quai Branly, qui a fait beaucoup de bruit là, à la fin de l'année dernière. Ouais. C'est un projet qui est en cours et le Bénin, je ne connaissais pas du tout avant d'y être allée. Vraiment un pays génial, les gens sont super accueillants, enfin, très généreux. Après, c'est d'autres façons de travailler. Et du coup, ça m'a permis aussi de, quand je vous parlais d'architecture située et contextuelle, c'est de rentrer dans la matière à nouveau et de maintenant c'est beaucoup, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais travailler sur des matériaux biosourcés, donc la terre notamment, parce que c'est un projet qui est situé en plus dans un site qui est classé au patrimoine mondial UNESCO et donc il y a une forte composante en terre. Et donc l'idée de mon projet, c'est de travailler évidemment avec les artisans locaux et travailler sur le savoir-faire local de la terre, la brique de terre compressée, des choses comme ça. Et en même temps, apporter une touche, enfin une architecture contemporaine. C'est-à-dire, c'est pas être dans le mimétisme du contexte et donc du site des palais royaux, des rois du Dahomey. Mais c'est plutôt de réinterpréter à ma manière leur parcours, parce que c'est un musée qui va raconter l'histoire de ces dynasties de rois et les Amazones, donc qui étaient les guerrières et les défenseuses des rois. Et donc, en fait, mon projet se situe sur un site qui s'appelle la Cour des Amazones, donc qui est très symbolique. Et l'idée, c'était justement de donner une nouvelle image, en fait, de cette histoire aujourd'hui et pour les futures générations aussi. Et donc, c'est raconter, en fait, pour les jeunes d'aujourd'hui, en fait, l'histoire de ces dynasties qui s'est un peu perdue, même si au Bénin, ils sont très proches de leur culture, surtout de leur rituel. Mais c'est vrai qu'ils sont un peu détachés, même d'une manière générale, en Afrique subsaharienne, on s'est un peu détaché de son histoire qui est devenu un peu négatif sur tout ce qui est, notamment en architecture, je parle hein, surtout, hein, sur la construction traditionnelle, vernaculaire, voilà, c'est des choses que les gens rejettent beaucoup. Et en fait, aujourd'hui, il y a tout un travail qui est à refaire de réappropriation de ces savoir-faire sans refaire du vernaculaire. En tout cas, moi, ce n'est pas ce que je veux faire. C'est au contraire faire une sorte de symbiose entre une architecture traditionnelle et une architecture dite plus moderne, contemporaine.
Ce qui est extraordinaire dans ces techniques ancestrales, c'est justement cette matérialité très forte qu'on peut réinvestir dans le champ de l'architecture contemporaine.
Exactement, c'est tout l'intérêt de ça en tout cas. Ouais. Bon, Moi, enfin là, j'en suis encore aux études, mais j'ai hâte de voir la matière faite sur place.
Ouais, surgir.
Ouais.
Vous pourrez aller sur place suivre.
Ah oui, oui, au contraire. Ouais. Bah, j'y suis déjà allée plusieurs fois.
Ouais.
J'y vais régulièrement, de toute façon, pour voir mon client et faire l'état de l'avancée de mon dossier. Et évidemment, je serai sur place sur le chantier. Alors, évidemment, pas tous les mois, mais je vais y aller régulièrement pour voir l'avancée du dossier. Ouais,
ouais. Ouais. Alors là, vous avez choisi un bâtiment d'emblée très emblématique. Auriez-vous d'autres références?
Oui, j'ai des choses
évoquées.
Complètement autre. Alors, par exemple, donc je continue toujours évidemment à travailler en France. Et donc là, actuellement, je travaille sur un projet à Bordeaux pour faire des maisons en bois, en fait. Des maisons individuelles groupées, mais totalement en ossature bois et bardage bois. Et c'est un projet qui n'est pas très gros. Hein. J'ai une dizaine de maisons à faire. Mais qui est vraiment intéressant parce que bon, ça se situe sur une ZAC, une zone d'aménagement concertée. L'urbaniste voulait absolument que ce ne soit pas des maisons standards ou qu'on sente que c'est des maisons jumelées, maisons en bande, etc. Et au contraire, il voulait que chaque maison soit différente. Et même pour aller plus loin, même la ville au début disait « on veut un architecte par maison ». Alors là, ça aurait été un peu compliqué. Ils ont dit « bon non, on va essayer quand même de simplifier les choses pour aller plus vite ». Et donc... En fait, on est deux agences à travailler sur ce projet. En tout, il y a 22 maisons. Donc, moi, j'ai 10 maisons. Et en fait, ce qui est compliqué, c'est que ce n'est pas forcément un gros projet, mais à chaque fois, c'est un projet dans un projet. C'est-à-dire qu'on a 10 projets, en fait, dans un seul. Et mine de rien, c'est une démarche qui n'est pas simple, parce qu'à chaque fois, il faut se dire, on est un client différent. Et comment ce client pourrait vivre dans cette maison? Et à chaque fois, il faut se reposer la question pour chaque maison, en se disant, ben, cette maison, il y aura tel type. On s'est fait des profils d'habitants. Dans l'autre maison, ça sera plutôt ci, plus de ça. Il y aura du télétravail ou pas. Il y aura une maison avec une famille recomposée ou pas. Enfin voilà, on se pose des tas de questions qui sont actuelles. Et du coup, c'est vraiment intéressant. Et en même temps, il faut que tout ça soit harmonieux. L'idée, c'était de faire du vivre ensemble aussi.
Ouais. Finalement, vous travaillez beaucoup sur les usages là, dans ce projet.
Oui, là, c'est complètement de l'usage, même par rapport aux extérieurs. C'est-à-dire que dans la maison individuelle en France, l'idée du jardin est très importante, par exemple. Et là, on n'a pas un jardin privé par maison, on a un jardin collectif. Donc c'est pareil, c'est à nouveau se poser la question de comment un jardin collectif peut être utilisé par plusieurs familles différentes et que ça marche. Donc effectivement, c'est vraiment un projet qui est complètement sur l'usage. Et ça, là-dessus, au-delà vraiment de l'architecture, c'est vraiment... ça a construit finalement l'architecture.
Est-ce que vous vous posez la question, justement, pour que ça marche, qu'est-ce qui ne marche pas en général? C'est ça? Non?
Ouais, j'imagine... Je dois le faire, je ne me le dis pas comme ça, mais forcément, quand je me pose des questions, que je commence à réfléchir sur un projet, je me dis, je tente des choses, je griffonne ou... Je fais des simulations en 3D et puis je me dis non, ça marche pas, non, ça je le vois pas. Oui, effectivement, c'est sûr, c'est obligé. On n'a pas le premier, enfin en tout cas moi je suis... j'ai pas le premier geste, le premier coup comme Picasso qui ferait un dessin parfait du premier coup. Non, je cherche beaucoup, je teste pas mal les choses avant que je me dise là ça marche. Je suis contente de moi.
D'autres projets en Afrique? Peut-être pas pour le moment.
Alors j'ai eu des pistes, j'en ai des nouvelles.
Ouais.
Par exemple, j'avais commencé une étude à Dakar pour des logements, mais finalement qui n'a pas abouti, pour des questions de foncier en fait. Il n'y a pas beaucoup de terrain là-bas et ma cliente n'a pas pu acquérir le terrain qu'elle avait en tête, donc ça ne s'est pas fait. Mais là, par exemple, j'espère pouvoir travailler sur une étude de... un éco-village à Bamako, au Mali. Un village, en fait, pour des logements abordables. C'est-à-dire qu'en Afrique subsaharienne notamment, il y a une grosse demande de logements. Les populations sont très jeunes. Et il y a beaucoup d'habitats informels, en fait. Et de plus en plus, les gouvernements se rendent compte qu'ils ont besoin, finalement, d'aider les populations à développer leur habitat d'une manière... saine et viable, et il se pose la question beaucoup du logement social et ou abordable. Donc c'est-à-dire, c'est des logements que les gens peuvent acquérir à des prix bas, parce que souvent les populations n'ont pas beaucoup d'argent, et en fait ils ne peuvent jamais vraiment posséder une maison vraiment. Et donc c'est pour ça qu'il y a plein de choses qui se font de briques et de brocs, mais c'est parce qu'ils n'ont pas les moyens finalement de bien construire. Et là, maintenant, de plus en plus, il y a des organismes ou des personnes qui veulent développer ce type de projet pour aider les populations à mieux se loger. Et donc là, j'ai été approchée par une association malienne qui veut développer des projets de logement abordable pour des populations voilà, à faible revenu à Bamako.
D'accord. Et est-ce que les lois du foncier sont très anarchiques ou est-ce que ça prend le chemin de la culture européenne, ce qui n'est pas forcément une bonne chose?
Ouais, ça dépend. Il faut voir comment. C'est beaucoup plus réglementé qu'à une époque.
Oui.
Il y a toujours quand même, malgré tout, un suivi foncier sur les actes de propriété des terrains des personnes. Mais après, c'est vrai que parfois, on arrive à se dire, enfin, à trouver qu'il y avait un, deux, trois mêmes propriétaires sur un même terrain, ce qui n'est pas toujours très... Enfin, qui n'était pas normal. Et là, c'est en train de changer. Effectivement, les choses sont un peu plus, on va dire, carrées,
régulées.
Plus régulées. Les administrations font plus attention sur les permis de construire qui sont déposés, etc. Donc, il y a un suivi qui est en train d'être mis en place petit à petit dans pas mal de pays pour que les choses soient plus claires et qu'après, il y a une vraie gestion, finalement, de la ville, parce que ça commence par là. Si on ne sait pas quel foncier, à qui appartient le foncier, comment il est géré et par qui, ben, effectivement, ça devient complètement anarchique et la ville ne peut rien faire. Enfin, ça...
Et puis, pour un architecte, ce n'est pas très sécurisant non plus. De s'inscrire, oui, en tout cas, dans une pérennité, ce n'est pas très facile.
Ah oui, après, moi, je ne suis pas non plus... Oui, certes, je serais contente que mes bâtiments puissent vivre 100 ans, mais je ne suis pas à tout prix à me dire il ne faut pas qu'on touche à mon bâtiment. Au contraire, moi, j'aime bien que les choses... évolue dans le temps et change, et même je plaide au vieillissement des matériaux, enfin c'est des choses un peu particulières, donc c'est pas grave en fait si les gens se l'approprient et voilà, que le bâtiment vit sa vie, c'est, je trouve ça même mieux presque parfois, plutôt que ce reste une histoire figée. Après il faut voir, effectivement c'est plus une question de pédagogie pour les gens et les habitants, de leur expliquer comment le faire bien.
Oui.
Donc c'est un accompagnement, il faut pouvoir le faire, c'est long. Il faut leur expliquer les choses, mais en fait, je le vois plus comme ça. C'est plus un accompagnement pour faire évoluer les mentalités.
Vous participez à des concours?
Alors, c'est compliqué. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez la commande publique, mais...
Il faut avoir des références.
Voilà.
Alors que, faut bien commencer un jour.
Exactement. C'est un peu à chaque fois le serpent qui se mord la queue. C'est-à-dire qu'on nous demande... des tas de références, trois références en moins de 5 ans, alors que déjà pour construire un projet, c'est au moins 5 ans. Enfin, donc c'est pour ça que je disais, en France, malheureusement, les gens ont tendance à se spécialiser à cause de ça. C'est que finalement, on vous demande d'être expert dans un sujet, et puis voilà. Et c'est très difficile de sortir de ça. Donc du coup, là, à une époque, j'ai fait des concours d'école, lycée, etc. Malheureusement, je ne les ai pas construits. Du coup, je n'ai pas de références construites. Et maintenant, j'ai des références qui sont trop anciennes. Et maintenant, c'est impossible pour moi, je dirais. Enfin, j'essaie même plus de candidater sur ce type de projet. Sauf à m'associer, éventuellement, avec un architecte qui a ses références et qui voudrait bien qu'on trouve un terrain commun pour réfléchir à la question. Mais sinon, non.
Ouais.
Je ne ferai pas toute seule, en tout cas.
Mais peut-être que votre singularité... Oui, vos origines africaines vous permettront de réaliser ça en Afrique.
En Afrique, oui, je pense que ce serait beaucoup plus simple, presque. Oui, je pense que... ils demandent quand même qu'on fasse preuve de notre expérience, mais ils sont plus ouverts sur la commande. Donc oui, je pense que
peut-être.
J'aurais plus de chance, je pense, d'en construire une là-bas, oui, certainement.
Est-ce que vous vouliez évoquer peut-être encore des projets?
Là, je travaille sur diverses choses. Ça peut être aussi des boutiques, en fait. Je fais des boutiques de luxe aussi un peu en ce moment à Paris. J'ai travaillé sur quoi dernièrement? Là, je fais une extension d'une maison individuelle à Saint-Jean-de-Mont. Voilà, donc c'est assez variable en fonction de ce qu'on peut me proposer aussi.
Bon. Vous avez une équipe avec vous?
Oui. Toute petite.
Oui.
Étant donné que je suis repartie presque, on va dire, de zéro.
Ouais.
Donc là, on est trois personnes.
Mmh. On sait que le milieu de l'architecture est très masculin, en tout cas dans sa phase opérationnelle,
oui,
après l'école.
C'est ça.
Parce que les rapports sont inversés. Ouais. Quand on est une femme noire dans le milieu de l'architecture, est-ce que vous estimez avoir rencontré des difficultés ou des injustices? Ou est-ce que vous estimez que finalement vous avez réussi à tirer votre épingle du jeu, sachant quand même que vous avez été accompagnée dès le départ par des personnalités fortes?
Oui. Oui, je ne peux pas dire que j'ai vraiment souffert de ça ou que j'ai été stigmatisée ou autre. Non. En fait, là, c'est toujours la même question. Je fais partie notamment aussi d'un groupe de réflexion sur la question justement des femmes dans l'architecture, etc. Et on est toujours à chaque fois à se dire, mais c'est un sujet qui ne devrait même pas exister. Enfin, normalement, on devrait être d'abord reconnu pour notre travail et pas pour le fait qu'on est une femme ou voilà, qu'on soit d'une race différente ou autre. Donc, c'est vrai que malgré tout, moi, je dois le dire, ça me donne de la visibilité, hein, parce qu'il y a peu de femmes architectes noires en France et en Europe. Aux États-Unis, il y en a plus, mais elles sont plus dans ce qu'on appelle les firms, les grosses agences, c'est d'autres façons de travailler. Mais en tout cas, des femmes qui sont à la tête de leur agence, il y en a très peu. Et des femmes noires, encore moins. Donc du coup, c'est vrai que j'ai un peu un profil atypique dans le paysage pour ça. Et qu'on me remarque, et que même je deviens même parfois assez modestement un modèle pour certaines. Donc je suis plutôt contente, au contraire, de dire que ça peut faire avancer les choses et qu'on peut y arriver malgré tout.
Oui, justement... Ingrid Taillandier parlait de cette nécessité d'avoir des modèles pour les jeunes femmes qui rentrent à l'école.
Oui, elle a vraiment complètement raison.
Ouais.
Oui, j'espère en tout cas aider à ce que ça continue d'évoluer. Ça change, hein. Il y a de plus en plus quand même d'architectes femmes qui se mettent à leur compte plus rapidement qu'avant. Mais évidemment, effectivement, il y a encore un déséquilibre aujourd'hui. Bon, je sais qu'elle avait râlé sur les prix Najap, là, où on voyait sur la photo...
Oui, il y avait tout.
Quasiment que des garçons. Enfin, c'est vrai que c'était assez troublant. Bon, on espère qu'un jour, ça sera l'inverse. Ou pas, d'ailleurs. Je ne sais pas si ça sera mieux, en fait.
Il faut que les choses se fassent naturellement.
Oui, oui.
Et sans injustice.
C'est surtout ça.
Oui, c'est ce qu'on...
Après...
Comment imaginez-vous le futur?
Ah oui, la question. Le futur.
Alors, dans le gros bazar ambiant, parce que c'est quand même un peu...
C'est complexe. Bah justement, moi, je pense que ce sera tout aussi complexe, en fait. Il y aura d'autres défis, il y aura d'autres sujets, mais il n'y a pas de raison que ce soit plus simple. Enfin, ça n'a jamais été simple, en fait. De toute façon,
chaque époque a
ses problèmes, ses défis à relever. Donc, voilà, le futur, il sera, j'espère quand même, optimiste, qu'on arrivera à gérer certains problèmes qu'on a aujourd'hui, mais il y en aura d'autres, je suis sûre. Donc, ça sera complexe. Moi, je dirais que ça sera complexe.
Et pour vous, pour votre agence?
J'espère que ça sera prolifique. En tout cas, que je serai toujours... Là, on ne sait pas de quoi la vie est faite, mais... Ouais. En tout cas, que je serai toujours aussi passionnée par mon travail et que j'aurai aussi la chance toujours d'avoir accès à des projets intéressants, parce que c'est un peu ça que j'ai aujourd'hui. J'ai quand même la chance d'avoir des projets intéressants. C'est pas facile, mais je dis pas que je me donne le luxe parfois d'en refuser, mais quand il y a des choses que je sens pas, je le fais pas, parce que c'est vrai qu'il faut gagner son gagne-pain, mais il y a des moments où on s'y perd, enfin on perd son âme quoi, à faire des choses dans lesquelles on ne se reconnaît pas. Donc moi j'espère que dans le futur je serai toujours contente des projets que je fais et qui seront toujours aussi ambitieux surtout.
Quel conseil donneriez-vous aux étudiants en architecture d'aujourd'hui?
Il faut s'accrocher. C'est un métier d'architecture qui est très exigeant, qui est assez dur finalement. Il faut apprendre aussi à être chef d'entreprise, à faire du DRH, à faire plein de choses qui sont annexes à notre métier.
À connaître le droit aussi.
À connaître le droit, encore plus, de plus en plus, ça c'est sûr. Donc il ne faut pas s'endormir. En tout cas, je leur dirais, il faut être curieux, il faut rester curieux, il faut être surtout très ambitieux et exigeant. Mais il ne faut pas avoir peur par contre. Il ne faut pas avoir peur, c'est-à-dire il faut oser proposer des choses. Moi, comme je suis beaucoup dans l'expérimentation, je trouve que c'est bien de ne pas rester sur ses acquis et du coup, toujours proposer pas s'endormir, toujours proposer des nouvelles choses. Voilà, après, c'est ma démarche. Il y en a qui aiment bien rester dans des choses qu'ils maîtrisent et qui ne bougeront plus. Moi, ce n'est pas du tout ça. Je me remets tout le temps en question. Donc.
Vous auriez un projet de rêve
Non, en fait, c'est une question compliquée. À chaque fois qu'on me la pose, je ne peux pas dire que j'ai un projet de rêve.
Si on vous la pose, c'est que vous êtes inspirante.
Ouais, c'est ça, peut-être. Ce serait peut-être mieux dans ce sens-là, ouais. Non, je n'ai pas de projet de rêve. Il y a peut-être des projets que je ne ferais pas, mais par exemple des prisons, des choses comme ça, je ne me sens pas très à l'aise dans ce genre de sujet. Mais après, non, je n'ai pas de projet de rêve. Je m'épanouis, j'espère, dans tout type de projet.
Ok. Un mot de la fin. Vous avez peut-être un message passé.
Non, en fait, c'est vrai que le métier d'architecte est, on va dire, peu ou pas mal connu du grand public.
Ouais.
En plus, nous, on a une façon de s'exprimer, souvent un jargon qui n'est pas facile, forcément, envers le grand public. Donc, c'est bien qu'on ait un relais, tel que vous le faites aujourd'hui, pour montrer la diversité déjà des architectes, de leur façon de travailler, leur façon de penser. Et je pense qu'il faudrait qu'il y en ait plus, en fait.
Ouais. Bah, c'est pour ça que je m'y accroche.
Bravo.
Avec Merci. Beaucoup de ténacité, je crois, et je suis bien accompagnée. Mais en effet, ce qu'il faut que le grand public comprenne, c'est que l'architecture fait partie de notre quotidien. Il semble souvent en colère envers les architectes, mais en fait, il y a un espèce de fossé. Et je pense que de rendre votre parole accessible, que les gens comprennent que vous êtes des gens comme tout à chacun.
Monde, ouais.
Et que voilà, les grandes stars architectes, de toute façon, c'était ça même toujours, même si ça a été une mode à un moment donné, c'est un peu une illusion.
Ouais.
Parce que les grands cabinets, ils ont plein de compétences qui travaillent avec eux.
Exactement. Ouais. Non, c'est vrai que les architectes, c'est des gens qui sont là au quotidien, en fait, et dans le quotidien des gens. Et en fait, on a tendance à oublier aussi, finalement, la responsabilité qu'on a tous les jours envers la société, quoi. On a un métier qui est très social, parfois politique. Donc, c'est vrai que je pense que les gens ne comprennent pas ça. C'est-à-dire que la dimension, le fait qu'on soit, en fait, là pour les gens, en fait. Et c'est vrai que souvent, quand on parle des architectes, c'est souvent parce qu'il y a un problème ou on a une image. Ou bien au contraire, c'est l'artiste
qu'on encense, il n'y a plus que lui.
Voilà. Mais l'architecte quotidien, on ne le connaît pas, on ne sait pas ce qu'il fait. Et c'est la majorité, la grosse majorité de la profession aujourd'hui. Et qui œuvre tous les jours, qui se bat tous les jours, qui n'a pas beaucoup d'argent. Donc, c'est vrai que ça, c'est important d'en parler. Il y a un peu ce fossé, effectivement, de la vision de l'architecte aujourd'hui, quoi. Et même pour on parlait des jeunes tout à l'heure, il faut qu'ils comprennent ça aussi, quoi. C'est-à-dire que le métier de l'architecte, c'est un métier du quotidien, avant tout.
Mmh.
Vraiment.
Alors, œuvrons pour nous emparer de ce quotidien, non pas pour le subir.
Exactement.
Bon. Merci infiniment, Françoise, pour votre...
Merci, Charlotte.
Témoignage touchant.
Alors, merci.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro en français. D'ici là, n'oubliez pas le numéro en anglais et prenez soin de vous. Au revoir.
Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Merci à Julien Rebourg, réalisateur, qui nous accompagne sur la partie son. N'oubliez pas de retrouver nos sujets en avant-première sur Instagram à l'adresse @comdarchipodcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast, plus un petit commentaire, ou sur votre plateforme de podcast favorite. Et surtout, abonnez-vous pour écouter tous nos épisodes gratuitement. À bientôt, et d'ici là, prenez soin de vous.